Canal Académie. Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences.
Je suis face à Marie-Lise Roux. Tu as été directrice d'école, école primaire.
Les dernières années de ma carrière, c'était une école maternelle et c'était à Mérignac, dans la banlieue bordelaise. Ça a été un vrai bonheur.
Alors parle-moi un peu du travail de directrice d'école et en particulier ce qui m'intéresse, c'est de savoir... Est-ce qu'une directrice ou un directeur d'école a un rôle pédagogique ou seulement administratif ?
Alors l'idéal serait qu'il ait plus de temps pour avoir un rôle pédagogique. Actuellement, il se fait un peu happer par les tâches administratives. C'est surtout qu'il y a un amoncellement en fait, de courriers qui arrivent, d'injonctions auxquelles il faut répondre.
Et ça a augmenté au cours de ta carrière ?
Ah oui, je l'ai vu vraiment à la fin de mes années de directrice, alors que normalement j'aurais dû avoir justement plus de temps. J'en avais encore moins. De ce côté-là, il y a eu quand même un véritable problème.
Un directeur d'école n'a pas de pouvoir hiérarchique sur les professeurs de son école.
Du tout.
C'est-à-dire qu'il ne va pas dans la classe pour les conseiller, les aider
Non, il peut le faire à la demande. Oui. Moi, j'avais réussi au niveau pédagogique parce que c'était ça qui m'intéressait. J'avais réussi quand même à mettre en place avec mes collègues, mais il faut du temps pour convaincre. Et il faut y aller doucement. Mais il faut convaincre, on avait réussi à mettre en place des projets pédagogiques, en particulier en sciences, mais aussi dans d'autres domaines, très intéressants, où tous les collègues, non seulement les collègues, mais comme on était en école maternelle, aussi le personnel, étaient engagés.
Alors tu dirais que les collègues, quelquefois, ils peuvent dire non, laisse-moi tranquille.
Oui, absolument, absolument, puisqu'on n'a aucun pouvoir hiérarchique de toute façon, et c'est pas en imposant les choses que, du coup, on va y arriver.
Mais tu le regrettes ou bien tu aimerais que les directeurs d'école aient plus de pouvoir sur les profs ?
Moi, je pense qu'il faudrait que les directeurs d'école soient des véritables chefs d'établissement, parce qu'il y a des écoles très grosses, et j'en connais une en particulier dans mon secteur, qui est une école de 460 élèves, donc qui est plus grosse qu'un collège, où il n'y a que le directeur. Il n'y a pas de directeur adjoint, il n'y a pas d'autre personnel que lui, et les enseignants.
J'ai vu quelque part que les directeurs d'école à Paris sont un peu privilégiés. Tu peux m'expliquer
oui,
ça ?
Oui, ils sont privilégiés parce qu'en fait, ils sont déchargés. Alors eux, par contre, ils s'occupent de tout ce qui est cantine, mais ils sont complètement déchargés, eux.
Donc ils n'enseignent pas du tout ?
Donc ils n'enseignent pas du tout.
Mais on devient directeur d'école qu'après avoir enseigné ?
Normalement. Mais actuellement, il se passe des choses très différentes de ça. C'est-à-dire, comme il y a moins de demandes au niveau des directeurs d'école, on peut avoir des T1, c'est-à-dire des gens qui viennent juste de sortir de l'INSPE, qui prennent un poste de direction. Soit qu'on les oblige, entre guillemets, à le prendre, soit qu'ils le prennent parce qu'ils ont envie d'être dans tel ou tel secteur où il manque un directeur. Bon, ça, c'est catastrophique, évidemment. Baby, I see this world has made you sad.
Some people can be bad. Qu'est-ce que tu penses des évaluations nationales qui se font au début du CP, en fin de CP, au milieu du CE1, si je ne dis pas de bêtises? Est-ce que tu penses que ce sont des outils intéressants pour les profs? Beaucoup de profs se sentent un peu fliqués, en quelque sorte. Beaucoup sont opposés à ça. Moi, vu de l'extérieur, j'ai un peu l'impression que c'est utile pour un pays d'avoir une vraie photographie de l'ensemble des enfants à un âge donné.
Alors le problème, c'est qu'il y a eu un amoncellement d'évaluations. Moi, c'était le cas aussi à l'école maternelle. Il fallait faire une évaluation dans tous les niveaux, une par trimestre. Et honnêtement, un enseignant, quand il est dans sa classe, il a les enfants 6 heures par jour. Donc il apprend très très vite à les connaître, à voir où sont les difficultés. Et cette année, j'ai vu qu'il y avait eu des évaluations dans tous les niveaux. Il faut vraiment avouer que c'est un moment de stress pour les enfants. Parce que ça se passe d'une façon quand même assez formelle, que tous les enfants ne sont pas forcément au même niveau. et que du coup, je ne suis pas sûre que le résultat, que l'image corresponde vraiment à la réalité.
Mais pour le maître, ce n'est pas utile de comparer sa classe avec une classe à 300 km de là ?
Peut-être que ça pourrait être utile. Moi, je ne suis pas sûre. Enfin bon, honnêtement, moi, je n'ai jamais eu besoin de ça pour savoir comment pouvaient évoluer mes élèves. Les élèves, ils savent qu'ils sont comparés aux autres. Les familles le savent surtout.
Ah oui.
Et ça, c'est quand même difficile à vivre. Hein.
Les résultats sont transmis aux familles ?
Ah oui.
Sous quelle forme ?
Alors, normalement, sous la forme d'entretien.
Ah, avec le maître ?
Avec le maître, oui.
Qui compare en quelque sorte l'enfant avec le niveau de la classe ?
Ben oui.
Ce qui revient en quelque sorte au bulletin de jadis.
Oui, c'est ça. Et moi, je ne crois pas qu'on profite... D'ailleurs, on voit bien que les résultats des élèves ne se sont pas du tout améliorés depuis un certain nombre d'années, alors que le nombre d'évaluations a augmenté. Donc, il faudrait quand même se poser des questions par rapport à ça.
Deux conclusions de ces évaluations qui m'ont semblé intéressantes, même d'après ce que j'ai compris, tous les profs de primaire le savent bien. Première remarque, au CP, les résultats des enfants dépendent du mois de naissance.
On le sait bien, parce qu'un enfant de début janvier et un enfant de fin décembre, à cet âge-là, il y a quand même 11 mois de différence et ça peut être énorme. Attention, ce n'est pas forcément un facteur discriminant, mais ça peut être énorme, effectivement.
Et le deuxième truc qui m'a beaucoup intéressé, c'est la différence garçon-fille qui se creuse dès le CP en maths. Et pas en français.
Sur la question garçon-fille, moi, je l'ai pas trop senti, mais j'ai travaillé dans une école où on faisait de la didactique des maths, donc du coup, c'était pas aussi biaisé que ça. C'est quand même étonnant, ça. C'est étonnant.
Mais les chiffres sont vraiment forts. En bleu, il ne s'agit pas de sondage, hein, il s'agit vraiment d'une photographie.
Alors qu'en maternelle, bon, moi, je faisais aussi des maths, entre guillemets, mais sous forme de jeu didactique en maternelle. Moi, je ne voyais pas trop la différence en maternelle. Donc, est-ce que ça vient après de la société ? Est-ce que ça vient de l'enseignement que l'on donne ensuite à l'école élémentaire ? Là, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Alors, c'est vrai qu'on avait fait, dans l'école où j'étais avant, on avait fait une espèce d'étude où on essayait de voir comment l'enseignant interrogeait les élèves et comment il s'adressait à eux et combien de fois il s'adressait à tel ou tel élève. Et ça, c'est une étude très, très intéressante, effectivement, parce qu'on a tendance, de toute façon, à interroger ceux qui ont envie de répondre ou qui savent répondre. Et c'est là un petit peu la difficulté aussi. Bon, enfin, moi, je pense que je me suis passionnée pour cet enseignement des maths à l'école, que j'ai découvert, en fait, un peu quand je suis arrivée dans cette école, entre guillemets, expérimentale à Bordeaux. Et moi, je crois qu'il y a des façons d'enseigner les maths qui peuvent passionner tout le monde.
Alors, lesquelles ? Ça m'intéresse.
Lesquelles ? Ben, moi, je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches qui ont été faites avec les IRM et qui n'ont pas été du tout après mises en œuvre dans les classes. Nous, on avait cette chance de travailler avec l'IRM de Bordeaux et d'avoir une école...
Je dois dire pour l'auditeur que IRM, ça veut dire Institut de Recherche sur l'Enseignement des Mathématiques, qui est une structure qui a été inventée dans les années 70,
oui.
Un peu en réaction aux mathématiques modernes, on peut dire à l'époque, pour réfléchir ensemble avec les universitaires à la meilleure manière d'enseigner les maths.
Donc nous étions des enseignants sur le terrain, il y avait des professeurs d'école normale à l'époque, il y avait des chercheurs, des étudiants. Et on essayait d'essayer de construire des situations qui permettent aux enfants de trouver des solutions aux problèmes qu'on leur posait. Et ensuite, alors avec du matériel, jusqu'à tard dans leur cursus, ils ont vraiment besoin d'avoir des choses qui ne soient pas uniquement arbitraires, d'avoir des choses concrètes. Et ensuite, donc, de trouver des stratégies, et ensuite de comparer leurs stratégies, de voir celle qui est la plus efficace. Et la plus efficace, en général, c'est la stratégie qui correspond au savoir savant. Donc c'est celle-là qu'on va utiliser ensuite. Et c'est celle-là qui sera institutionnalisée. Si on donne à des enfants des recettes, on leur dit, ben, faut faire ceci, il faut faire cela, il y en a qui ne sont pas du tout à ce niveau-là. Et moi, je continue à travailler dans les classes, en maths et en sciences, et moi, je le vois très, très vite, ça. Alors que si on les laisse, effectivement, utiliser leur stratégie, hein, c'est un peu ce qu'on appelle les conceptions initiales aussi en sciences, bon, on sait d'abord, en les observant, on sait où le bât blesse. On peut savoir où sont les difficultés, à la fois psychologiques, comportementales, au niveau des apprentissages, et ça permet d'avancer beaucoup mieux. Et ça marche beaucoup mieux. Alors, ça, on ne va pas tous les amener au même niveau, au même moment, il ne faut pas croire ça. Ça, c'est une hérésie de croire ça, parce que les enfants, ils n'avancent pas tous au même rythme. Mais ils ont à la fois ce moment où ils peuvent, eux, utiliser leur stratégie, recommencer, essayer, faire des essais, faire des erreurs, comparer ensuite, comparer, mais de façon positive, les stratégies, en discuter avec les maîtres, avec le maître, avec les autres élèves, et puis après se dire, ah ben oui, moi ça n'a pas marché, donc là, il va falloir que j'essaye autre chose.
On dit qu'à l'école primaire, presque tous les enfants aiment bien les maths, c'est vrai ?
Moi, je n'ai jamais vu d'élèves qui étaient dégoûtés par les maths. Après, une fois de plus, c'est ce qu'on en fait, comment on les enseigne, hein, moi j'ai envie de dire.
Alors, dernière question, parce que nous, à l'Académie des sciences, on aime bien cette idée. Qu'est-ce que tu penses de l'association maths avec les sciences ?
Oh ben oui, c'est évident.
Alors pourquoi c'est pas pratiqué comme on l'aimerait ?
C'est pas pratiqué parce que dans notre enseignement, dans les programmes et même dans les emplois du temps, il y a des séances de maths, tant de séances de maths, tant de séances de sciences, tant de séances de machin, et qu'il n'y a pas assez d'interdisciplinarité. Et moi, je l'ai vu dans tous les projets que j'ai mis en place. Ben à un moment donné, on se dit, ah ben oui, là, il nous manque quelque chose. Eh bien, il va falloir travailler sur quelque chose. En maths, ça peut être la mesure, ça peut être le dénombrement, ça peut être autre chose, une autre notion. Et bien là, il va falloir travailler dessus et là, on va s'y mettre.
Mais le prof, à l'école primaire, il a quand même une grande liberté de manœuvre.
Bien sûr.
Il a un programme, bien sûr, mais il peut moduler comme il l'entend. Et donc, il semble bien que beaucoup d'instituts, de professeurs des écoles, pour être plus précis, continuent à avoir ces barrières entre les disciplines.
Tout à fait. Mais moi, je pense que ça vient vraiment de la formation, hein. La formation initiale et la formation continue. C'est qu'on ne travaille pas la preuve. Les fondamentaux, au niveau de la formation continue, on parle des fondamentaux français et maths. Et on ne parle pas des autres. Alors que pour moi, les fondamentaux, c'est tout. Enfin, on a besoin de tout. Il y a des élèves que l'on peut guérir par d'autres intermédiaires que par en leur faisant avaler des fondamentaux. En faisant des sciences, en faisant des arts, en faisant autre chose. Et tout d'un coup, paf, il y a un petit éclair, on se dit, eh ben oui, là, je vais rentrer par là.
Bon, alors, dernière question. Tu as 10 secondes pour convaincre une jeune fille ou un jeune homme qui est face à toi que c'est un bon métier.
Oui, c'est un métier formidable. Et moi, je continue, je suis à la retraite, mais je continue à aller dans les classes, à essayer de prouver qu'on peut en faire quelque chose de ce métier, que c'est passionnant et que les gamins, ils méritent tous notre attention.
Et ils méritent d'être mieux payés aussi, les profs.
Oui, ça, sans aucun doute.
Quelle musique me proposes-tu pour illustrer ton propos ?
Alors, moi, j'ai envie de proposer Shostakovich.
Non.
Non.
J'ai déjà eu plusieurs fois des interviews.
Non, alors pas lui. Voilà. Pas lui. Donc, il y a une autre musique que j'aime beaucoup, mais qui n'est pas de la musique classique. C'est Dire Straits.
Très bien. Alors, vous avez écouté Why Worry de Dire Straits. Merci, Marie-Lise.
Petite histoire de science. Avec Étienne Gis. Le podcast de l'Académie des sciences. Canal Académie.